Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Lost in La Mancha, le Don Quichotte maudit de Terry Gilliam. Désolé pour ce long silence, après 17 ans, nous avons terminé le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte. Muchas gracias à toute l'équipe et aux croyants. Don Quichotte est vivant. C'est par ces quelques mots postés sur sa page Facebook le 4 juin dernier, dans le style lapidaire et ironique qu'on lui connaît, que le réalisateur Terry Gilliam a mis fin, pour le moment en tout cas, à une malédiction qui dure depuis bientôt près de 2 décennies. Au début des années 90, le cinéaste anglo-américain décide d'écrire et de réaliser une adaptation du monument de la littérature espagnole, Don Quichotte de Miguel Cervantes. Commence alors une incroyable épopée faite d'échecs et d'espoirs, d'ambitions et de désillusions. Une histoire de création, comme seul le cinéma peut en écrire, où l'on suit toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un long métrage, de l'écriture au tournage, en passant par la production, où l'on mesure aussi depuis les coulisses toute la difficulté de cet art dont l'histoire est jalonnée par ces films maudits. De cette aventure est né un premier film en 2002, Lost in La Mancha, réalisé par Keith Fulton, produit par Quixote Film, et qui raconte l'un des nombreux abandons de ce projet au long cours et dont vous entendrez des extraits au fil du récit. Notre invité aujourd'hui, François Forestier, journaliste, critique de cinéma au Nouvel Observateur, qui a réalisé un grand entretien avec Terry Gilliam le 26 avril dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonhomme, coordination Christophe Barrère, réalisation Étienne Bertin et Fabrice Laine.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Thank you for being here.
Merci d'être ici.
Terry to be here.
Merci à Terry d'être ici.
We are here just to...
On est ici pour annoncer officiellement que l'homme qui tua Don Quichotte suit son cours. Je pense qu'on a trouvé le chemin pour arriver à la fin.
Mai 2016, Cannes. Du plus grand festival du cinéma au monde, on connaît le tapis rouge et la montée des marches, les célébrités, le jury, la cérémonie et la palme d'or. On parle moins souvent de l'autre, Cannes, à l'arrière-plan, ce marché où les films s'inventent, se font, s'annoncent, où des réalisateurs tentent de séduire des producteurs avec quelques phrases sur un nouveau projet, où ces mêmes producteurs sondent ce flot d'idées auprès des financiers et où les distributeurs donnent, ou non, leur aval. C'est de ce côté-ci du festival que se joue notre scène le 18 mai 2016. Ce jour-là, il y a du monde à la conférence de presse censée officialiser une information qui agite le petit monde des cinéphiles depuis quelques semaines. Dans le salon cossu de l'un des nombreux hôtels cannois, les deux hommes qui s'avancent ont une sacrée renommée. Le premier, costume mal ajusté, chemise blanche froissée et légendaire moustache, s'appelle Paolo Branco. Il a 66 ans, il est producteur de cinéma, d'un certain cinéma. Celui des auteurs, exigeants, ambitieux, difficiles à produire. À ses côtés, sandales aux pieds et scandale aux pieds, chemise à fleurs et sourire aux lèvres, se tient Terry Gilliam, réalisateur anglo-américain de 75 ans. Dessinateur et acteur, il a commencé sa carrière dans les années 70 avec la troupe des Monty Python, qui s'est fait connaître dans une célèbre série télévisée anglaise, puis au cinéma, en 1974, avec un film co-réalisé avec Terry Jones, Monty Python, Sacré Graal. Premier essai, premier succès. Depuis 40 ans, Terry Gilliam, en solitaire, bâtit une œuvre singulière à travers des films comme Bandit Bandit ou Brasil. Des films dans lesquels il déploie tout son imaginaire, son inventivité, ses projections rêvées ou fantasmées. Oui, mais voilà. Comme souvent dans ces cas-là, cet univers s'accompagne d'une certaine réputation. Celle de Terry Gilliam s'est dessinée en 1988 avec le film Les Aventures du Baron Munchausen, mal préparé, piégé par le producteur. Le tournage fait exploser le budget et l'échec commercial du film écrit les premières lignes de la légende Gilliam. Une légende noire de réalisateur fou et incontrôlable, incapable de respecter les délais et les budgets. Malgré des succès au box-office et dans la critique, difficile de se relever quand Hollywood vous peint un tel portrait, il vous colle à la peau. Bon an, mal an, Gilliam continue tout de même à faire des films. Mais ce 18 mai 2016, c'est le projet d'une vie, une idée qui lui trotte dans la tête depuis 15 ans, à laquelle il s'accroche coûte que coûte, par défi autant que par désir, malgré la malédiction, malgré les tentatives qui se sont soldées par autant d'échecs. Une idée, comme les aime également Paolo Branco, le producteur. Ce 18 mai 2016, les deux hommes l'affirment avec la confiance qu'il faut pour porter ces projets fous. Cette fois, c'est la bonne. L'homme qui tue Don Quichotte, l'adaptation de Cervantes par Guilliam, verra bien le jour. Bien, mais quel est donc ce projet? Pourquoi Guilliam a-t-il échoué depuis tout ce temps à le réaliser? Pourquoi s'accroche-t-il? Pour comprendre, retournons sur les traces de ce film maudit.
Don Quichotte m'a surtout frappé quand j'ai atteint la quarantaine, car je trouve que c'est le sujet de l'œuvre. Le dernier sursaut d'un homme qui a toujours mené sa vie avec responsabilité et raison. N'a pas vraiment vécu et soudain il se met à lire. Personnellement, j'ai toujours adoré les livres. Ils sont dangereux, on est transporté dans des mondes que l'on finit par croire réels. Je suis un réalisateur un peu Don Quichottesque. Mes projets sont souvent invraisemblables et impossibles, mais j'essaie de communiquer l'idée qu'il y a différentes façons de voir le monde.
Tout commence en 1991. Alors qu'il s'approche de la cinquantaine, voilà que Terry Gilliam a une vision. Et s'il adaptait Don Quichotte ? Considéré comme le premier roman moderne, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha, écrit par l'Espagnol Miguel de Cervantes au début du XVIIe siècle, raconte l'histoire d'un gentilhomme, Alonso Quinchano, obsédé par les livres de chevalerie, au point de se prendre lui-même pour un chevalier errant, parcourant l'Espagne au secours des opprimés avec l'aide de son écuyer Sancho Panza. Plongé dans l'illusion, rempli de vision, le vieil homme voit des paysans en princesse à défendre et les moulins à vent en géants à combattre. Derrière le ridicule du personnage, Cervantes dresse la parodie de l'idéal chevaleresque et critique du même coup les structures sociales de la société espagnole du Moyen-Âge. Parodie, critique, réalité baignée de folie, quand on connaît le cinéma de Terry Gilliam, l'association tombe sous le sens. D'ailleurs, le cinéaste se reconnaît dans le héros de Cervantes. Comme lui, en effet, il a le sentiment de ne pas avoir réalisé sa grande œuvre, celle de sa vie. Comme lui, il veut se perdre dans les mirages. Alors, ni une ni deux, il se plonge dans l'adaptation du roman. Une fois la première mouture écrite, Terry Gilliam en parle à un producteur. Persona non grata à Hollywood, il se tourne vers Jack Ebert, un Canadien dont les bureaux sont à Paris. Ce dernier met le réalisateur en contact avec une nouvelle société de production, française, CB 2000. Sans doute emballé à l'idée de travailler avec le cinéaste, la société s'engage à hauteur de 25 millions de dollars, avant de changer d'avis quelques mois plus tard. Bon, Terry Gilliam encaisse, accepte une proposition de film, L'Armée des 12 singes, et met, pour le moment, le projet Don Quichotte de côté. De toute façon, comme il l'explique, il n'est pas très content de ce premier scénario, non, il manque quelque chose.
Mon problème était de l'adapter pour un public moderne. Don Quichotte fait référence au retour de la chevalerie au XVIIe siècle. Pour un public moderne, le XVIIe siècle et le XIIIe siècle, c'est pareil. Personne ne fait la différence. Et voilà un type en armure qui vit à cette époque et qui parle d'un monde passé dont la plupart des gens n'ont aucune notion. J'ai donc pensé qu'il faudrait un lien moderne dans l'histoire. J'ai donc eu une grande idée. Pourquoi ne pas envoyer un homme du présent au XVIIe siècle ? J'y ai beaucoup pensé. J'en ai parlé autour de moi et je me suis de nouveau éloigné du projet.
Terry Gilliam n'est pas le premier réalisateur à vouloir adapter le roman de Cervantes. On parle même, dans le monde du cinéma, de romans maudits. Car ils sont nombreux avant lui à s'y être confrontés, sans succès. Le plus célèbre d'entre eux n'est autre qu'Orson Welles, qui commence à tourner une adaptation en 1955 sur ses propres fonds. Interrompu à plusieurs reprises, reprenant le tournage au Mexique ou en Italie jusque dans les années 70, montant plusieurs versions successives sans qu'aucune ne lui convienne, il mourra avant d'avoir pu terminer son Don Quichotte. Pour Gilliam, c'est en 1998 qu'il renoue avec le projet. Après le succès de l'Armée des Toussaints, il enchaîne avec l'adaptation du roman culte d'Hunter S. Thompson, Las Vegas Parado, sur lequel il fait la rencontre décisive du scénariste Tony Grisoni. Avec lui, il travaille sur une nouvelle version de Don Quichotte. Et cette fois, il a trouvé la clé. Un montage spatio-temporel, principe qu'on retrouve dans plusieurs de ses films. Le nouveau scénario raconte donc l'histoire de Toby, un publicitaire cupide d'aujourd'hui, qui se rend en Espagne pour le tournage d'un spot de publicité. Ce film promotionnel met en scène les personnages du roman de Cervantes. Sur place, il fait une chute et se retrouve projeté dans le passé aux côtés de Don Quichotte qui le prend pour son écuyer Sancho Panza. Cette confrontation des époques permet à Guillaume de renforcer la présence de son univers dans celui de Cervantes, d'affirmer une fois encore ce lien ténu entre l'œuvre de l'Espagnol, son héros et sa propre vision du monde à 4 siècles d'écart. Cette fois, son scénario, il le tient.
Exterior Spanish hilltop day. In black and white, an ancient stone windmill spins slowly in the breeze. Don Quixote appears, gaunt, aged, a madly fierce gleam in his eyes.
Stand your ground, foul and fearsome giant! I am Don Quixote de la Mancha!
L'homme qui tua Don Quichotte, c'est le titre de ce nouveau scénario, sorte des défis lancés à Cervantes et à son roman maudit. Cet homme, c'est autant le publicitaire que Terry Gilliam lui-même. Affronter dans un duel et tuer celui qui le poursuit depuis toutes ces années, le faire disparaître avec la seule arme qui vaille, la caméra, la belle affaire. Non seulement le réalisateur est satisfait de son script, mais il l'est d'autant plus. Et il est emballé parce qu'il a trouvé l'un de ses acteurs. Pour le rôle de Toby, le publicitaire, avatar de Sancho Panza, ce sera Johnny Depp qu'il a rencontré sur Las Vegas Parano. Ce dernier est ce qu'on appelle un comédien bankable sur lequel on peut bâtir le financement d'un film. Et puis sa femme, l'actrice française Vanessa Paradis, a aussi donné son accord pour le rôle du personnage féminin. Voilà, un couple de vedettes glamour dans la vie projetée à l'écran, quoi de mieux pour attirer les financiers ? Reste à trouver l'interprète de Don Quichotte. Cette mission, Terry Gilliam l'a confiée à ses directrices de casting, Irène Lamb. Passionnée par le cinéma français, cette dernière tombe sur une comédie de Pierre Salvadori, cible émouvante, dans laquelle Jean Rochefort joue le rôle d'un tueur à gages. Et là, pour elle, c'est évident, il ferait un magnifique Don Quichotte. Rochefort, 68 ans, la moustache, le côté longiligne, les yeux qui pétillent, tout cela lui donne un côté vieillesse enfantine qui colle parfaitement au héros de Cervantes. Terry Gilliam ne connaît pas l'acteur français. Il accepte de visionner plusieurs de ses films et tombe lui aussi sous le charme. Il propose donc le rôle à Jean Rochefort. Ce dernier raconte.
Moi, quel goût du canular, j'ai vraiment pensé à une blague. Rochefort, je ferai enfin Don Quichotte si vous acceptez de jouer le rôle. J'ai immédiatement pensé à un copain qui était en train de faire une farce. Et le lendemain, c'était une soirée de César, Terry Gilliam était présent. Il s'agissait d'une chose réelle. Je trouvais, avec l'objectivité qui me caractérise, que c'était merveilleux et en même temps que c'était une bonne idée de la part de Terry Gilliam. Je pensais que j'allais bien jouer Don Quichotte, en tout cas selon l'envie que j'avais et la manière dont j'avais envie de le jouer, à savoir un homme n'ayant jamais eu de relation sexuelle et qui se considérait donc comme un prince charmant et comme un amant potentiel et que mon physique se chargerait du reste. Donc j'avais ma route, j'étais tranquille de ce côté-là et je suis parti avec un enthousiasme délirant.
Le casting principal étant bouclé, il faut maintenant convaincre les producteurs. Comme d'habitude, les visions du réalisateur sont ambitieuses et au cinéma, qui dit ambition dit budget élevé. Pour ce film, il est estimé à 60 millions de dollars. Pour Gilliam, c'est clair, il trouvera le financement en Europe. D'une part, il sait pertinemment, même 10 ans après, que les studios américains ne s'engageront jamais sur l'adaptation d'un roman européen du XVIIe siècle, surtout s'il est réalisé par celui dont la réputation est largement ternie, et puis parce qu'il sait que les Européens, surtout, laisseront plus de liberté. De surcroît, Terry Gilliam tombe au bon moment. En cette fin de décennie 90, la Grande-Bretagne s'est décidée en effet à investir et produire des films plus ambitieux, quelque peu agacés de voir ses talents nationaux fuir vers Hollywood. La clé pour conquérir l'Europe, c'est de convaincre des partenaires dans différents pays. Alors, Guillaume se tourne aussi vers la France et trouve en la personne de René Kletman un interlocuteur attentionné. Ce dernier est un producteur réputé, rompu au film ambitieux et cher. Il a notamment produit Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le toit. Pour René Kletman, c'est une idée en particulier, oui, qui le convainc de se lancer dans l'aventure.
Moi, j'ai été, au fond, bien qu'un grand fanatique de Don Quichotte et de Terry Gilliam, ce qui m'a réellement fasciné, c'était le choix de Terry Gilliam. C'était son idée de faire appel à Jean Rochefort, que je trouve une idée lumineuse, quoi. C'est ça qui m'a tellement attiré. C'est l'idée qu'un metteur en scène anglo-américain pense à Jean Rochefort pour jouer le rôle de Don Quichotte. Et ça, ça m'a ébloui. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amitié que j'ai pour Jean Rochefort. C'est un choix esthétique, je trouve, extraordinaire.
Enthousiaste, Kletman explique aussi toute la difficulté à financer un tel projet.
Le budget moyen d'un film français, par exemple, c'est 5 millions de dollars. Et le budget moyen d'un film européen, c'est inférieur à ça. C'est en France qu'on fait les films les plus chers en moyenne. Donc le cinéma européen n'est pas du tout fait pour financer des films aussi chers. Sauf lorsqu'il s'agit de films nationaux à forte capacité populaire dans le pays où il est financé. Là, il s'agit d'un sujet espagnol fait en anglais, par un réalisateur anglo-américain, avec un acteur américain, un acteur français. C'est extrêmement déroutant pour des financiers.
Pendant plus d'un an, le tour de table continue. Petit à petit, au gré des discussions et des négociations, des promesses et des désistements, Terry Gilliam finit par réunir un budget de 40 millions de dollars. Ce n'est pas suffisant, certes, mais bon, ça fera l'affaire. Il renvoie certaines idées à la baisse et convainc un producteur allemand indépendant de boucler son budget. Finalement, fin juin 2000, à Londres, dans les bureaux de pré-production du film, l'atmosphère est heureuse. Une date de début de tournage est fixée pour octobre, en Espagne. Terry Gilliam touche enfin au but. Son rêve, qui le poursuit depuis 10 ans, est en passe de se concrétiser. Dans ses bagages, il propose à deux réalisateurs, Louis Pepe et Kev Fulton, de l'accompagner pour réaliser un making-of de son travail. Tout ce petit monde ne le sait pas encore, mais dans quelques mois, l'onde maléfique de Cervantes viendra de nouveau s'abattre sur eux.
Humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte que aux États-Unis une vallée morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Un homme sans trucage.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui, comme lui, lacèrent les cieux de mille feux sans artifice. Puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda, Andalusia.
Virginia, Honda, Honda, Andalusia, Honda.
Nous avons rencontré, vous en entendrez sans doute parler, le seul Allemand aussi fou que Don Quichotte, et aussi menteur. Il semblait persuadé de pouvoir nous donner la moitié du financement pour le film. À cette époque, le film avait un budget de 35 millions de dollars, peut-être même plus. Cet Allemand, avec son financement, nous promettait plus d'argent chaque semaine, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne l'aurait pas. Et tout est tombé à l'eau.
Nous sommes en août 2000. Terry Gilliam vient d'arriver à Madrid, où se trouvent les bureaux de l'équipe pour la préparation du tournage. Or, depuis 3 mois, l'ambiance est quelque peu tendue. En effet, quelques semaines après l'annonce de la date de début de tournage, le mystérieux producteur allemand s'est retiré et avec lui, le budget a été divisé de près de moitié. Tant pis, se dit Terry, il va réaliser son envie, même au rabais. La force de l'art le guidera et transcendra ses embûches mercantiles. L'équipe de production s'active pour réduire les dépenses et rationaliser ce qui peut l'être. Le problème, c'est que dans ces conditions, le travail de production est largement perturbé, la situation plutôt chaotique. Liste non exhaustive des soucis. Les accessoires pour les costumes sont prêts, mais lorsqu'il vient les voir, Terry Gilliam réalise qu'ils sont de piètre qualité. Les masques des figurantes sont toujours pas arrivés et sont bloqués en Angleterre. Quant au décor, là c'est simple, ils ne sont pas construits. Les techniciens espagnols expliquent qu'ils attendaient Terry Gilliam pour s'y mettre, ben voyons. Alors, entre eux et le réalisateur, les discussions virent au dialogue de sourds, les premiers ne comprenant pas les exigences du second. Pour autant et pour le moment, rien de tragique, contretemps normaux de ce type de grosse production. En revanche, il y a un souci qui lui pose plus de problèmes. Le studio dans lequel toutes les scènes intérieures du film doivent être tournées n'est pas adapté. La production n'a réussi à obtenir que le dernier disponible. Il faut peu de temps à Terry Gilliam lorsqu'il le visite pour voir, enfin, plutôt entendre, que quelque chose cloche.
On doit mettre tous les décors du film ici. Ah, l'acoustique est dramatique. On a la clim ? C'est la clim ? Ou juste un truc pour faire un son pourri ? Ah, le son, c'est une horreur. C'est fermé, il y a encore de l'écho. Dans l'entrepôt. Comment on va faire ? Les plateaux doivent être pas comme ça. Il n'y a pas d'autres studios ? Le son, c'est essentiel. Je croyais qu'on venait voir un studio, un vrai studio. Ça, ce n'est pas un studio. Non, je ne veux pas travailler comme ça. Et ça commence à me rendre vraiment, vraiment nerveux.
L'injustice du monde ne pèse pas à ton cœur sans choc.
Non, pas trop.
Tu seras mon écuyer. Je te nommerai gouverneur des royaumes que je ne manquerai pas de conquérir.
Le vieux fou.
Pendant ce temps, les semaines filent. Et après le matériel, c'est l'humain qui déraille. Le casting, principale force du projet, a l'inconvénient de ses avantages. Les disponibilités du couple Deb Paradis contraignent le planning à être respecté au jour près. D'ailleurs, l'actrice n'a toujours pas signé son contrat. L'inquiétude monte d'un cran. Malgré tout, Terry Gilliam s'accroche. Et il a raison, c'est du casting justement que les bonnes nouvelles arrivent. Johnny Depp débarque comme convenu en Espagne, il a plein d'idées sur son personnage, et vivant une partie de l'année en France, il a pu rencontrer Jean Rochefort. Tout cela est parfait, d'autant plus qu'entre les deux hommes, le courant est passé.
Cervantes, je lui dis merde.
L'acteur français, pour sa part, se prépare pour ce qu'il imagine être le rôle de sa carrière. Le hasard a voulu qu'il soit passionné d'équitation et qu'il n'ait donc aucun problème pour les scènes à cheval. Comme quoi, la vie est bonne fille, se dit Terry Gilliam, regonflé. Le seul vrai problème de Jean Rochefort, c'est l'anglais, qu'il ne maîtrise pas. Alors, depuis 7 mois, il suit des cours intensifs et ses progrès sont impressionnants. Tout cela est parfait, encore une fois. Jean Rochefort arrive enfin pour les essayages et il porte à merveille la tenue de Don Quichotte, sorte d'armure burlesque qui met en relief toute la malice et les traits ciselés des comédiens. Enfin, Terry Gilliam oublie tous ses soucis et lorsqu'il organise une première répétition en compagnie de ses deux acteurs principaux, la magie opère.
I'm here to save you, Sancho. Stand aside.
But suddenly in the fields of Montiero.
Destiny guides our fortunes more favorably than we could have wished ourselves. Look, Sancho, my friend.
Le 25 septembre 2000, le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte débute. Toute l'équipe a fixé son camp de base à la Bardenas, une réserve naturelle à 4 heures de Madrid, dans un décor désertique, idéal pour filmer l'errance de l'Hidalgo et du Sancho Panza contemporain. Pour un réalisateur, arriver à cette étape, c'est une joie particulière. Quand on sait la difficulté à écrire, à convaincre, à réunir l'argent, à préparer, à répéter, pouvoir enfin saisir les projections, les rêves, pour les transformer en images, c'est un sentiment très spécial. Il l'est d'autant plus pour Terry Gilliam, ce jour-là qu'il considère, rappelons-le, ce projet comme celui de sa vie. Allez, action, moteur, ça tourne. Non.
And action, John.
Cut. What's going on?
Aïe, la réserve naturelle n'est pas si déserte que ça, enfin, surtout dans les airs. On est en fait juste à côté d'une zone militaire. Oui, des Mirage F-16 survolent le terrain sans interruption. Impossible de prendre le son, bien sûr, dans ces conditions. Terry Gilliam essaie de garder son calme et tourne quand même. Bon, il prendra les sons des gros plans en post-prod. Hein. Pour le moment, il faut avancer. Alors on enregistre quelques scènes. Fin de journée, rendez-vous demain pour la suite. Deuxième jour de tournage. À peine quelques heures après l'arrivée sur les lieux, c'est cette fois sur le visage de Nicolas Pecorini, le directeur de la photo, que l'inquiétude se lit. Il ne comprend pas pourquoi la lumière évolue si étrangement. On est passé du plein soleil d'hier à un gris curieux, menaçant. Une fois encore, la météo semble jouer un drôle de tour. Là-haut, les nuages s'amoncellent, et puis bientôt, de nouveau, un bruit se fait entendre. Encore les F-16. Terry Gilliam n'a pas le temps de rire que des grêlons de la taille de balles de golf lui tombent dessus. Et le sol se transforme rapidement en torrent de boue, emportant le matériel sur son passage. Tout s'est passé en quelques minutes. Tout le monde court s'abriter. Faut-il le préciser? Dans cette région, on n'a jamais vu ça à ce moment de l'année. Troisième jour. On constate l'étendue des dégâts, du matériel est abîmé, la tente de la cantine a été emportée par le vent. Enfin et surtout, on n'est plus du tout dans la région désertique et aride filmée les premiers jours, mais dans un coin plus frais et plus vieux. Nicolas Pecorini est catégorique, impossible de tourner quoi que ce soit, les raccords avec les précédents rushs seront impossibles. Cinquième jour de tournage, le beau temps est de retour. On prévoit de filmer une scène entre Johnny Depp et Jean Rochefort à cheval. Bien, tout le monde se prépare, on met en place la caméra, les acteurs s'habillent. Puis vient le moment de se hisser sur les montures et là, Jean Rochefort, pourtant habitué de l'exercice, montre beaucoup de difficultés. Oh, il ne dit rien. Action, moteur, cette fois ça tourne. Alors on fait comme si de rien n'était, mais Terry Gilliam s'en rend rapidement compte. Jean Rochefort ne parvient pas à jouer. Son visage est fermé, crispé. On sent qu'il souffre le martyr. Et finalement, il craque. Oui, il ressent une douleur terrible dans le dos. Il a essayé, mais c'est au-dessus de ses forces. Le lendemain, l'acteur s'envole vers Paris pour consulter son médecin. L'équipe, son réalisateur en tête, sont abattus.
C'est pas comme ça qu'on fait un film. Même un petit. Dans ces conditions, c'est impossible. Il n'y a plus rien qui nous pousse. Il n'y a plus de moteur. On attend juste le bon vouloir de l'assurance. J'adore filmer, même si c'est la cata et que ça ne sert à rien. Au moins, il y a des images, quelque chose qui justifie toutes ces années de travail.
Ladies and gentlemen, step up!
What, step up? I, Mercury, the messenger of the gods, invite you.
À partir de là, le tournage de l'homme qui voulait tuer Don Quichotte entre dans une nouvelle phase. Comme suspendu, s'éloignant de la réalité pour s'enfoncer vers le cauchemar. Le départ soudain de Jean Rochefort provoque l'entrée dans la danse des assureurs. Et ce que tous pressentent depuis plusieurs jours finit par arriver. On diagnostique à Jean Rochefort une double hernie discale. Il ne reviendra pas. Quelques années plus tard, l'acteur raconte ce moment où son corps fit barrage à son rêve.
Ça m'a laissé quand même une empreinte douloureuse et en même temps cocasse. Et ça ne m'a pas arrangé moralement. Et j'ai considéré mon corps pendant 2 ans comme une sorte d'ennemi. Parce qu'il avait toujours été à mon service. Je trouvais ça absolument normal. Ayant fait beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, beaucoup de cabaret, il a toujours été là. Il venait avec moi. On sortait le soir ensemble, c'était bien. Et puis là, il y a des soirs, il n'a pas voulu sortir. Et ça, j'en suis parvenu. Et alors, il a fallu, toute proportion gardée, il y a des choses infiniment plus tragiques, il a fallu que je réapprivoise l'existence post-Don Quichotte, quoi. Et ça a été une petite convalescence longue.
On pense un temps à le remplacer, mais l'absence de Jean Rochefort n'est même plus le souci principal. Non, le tournage a pris beaucoup de retard, les emplois du temps des différents acteurs ne pourront plus correspondre. Phil Patterson, l'assistant réalisateur de Terry Gilliam, a déjà jeté l'éponge depuis plusieurs jours. Le budget est complètement insuffisant, les financiers se montrent hésitants et commencent à fuir ce qu'il faut bien appeler maintenant une galère. Terry Gilliam est à bout de force. Pour lui aussi, le rêve s'est fracassé sur cette succession d'imprévus, de difficultés, de malchances. Quelques jours après l'annonce du retrait de Jean Rochefort, le tournage est annulé.
Cut, 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 cut. Turn the camera around, Johnny looks in.
Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'eût été sans compter sur Terry Gilliam, qui en fait une affaire personnelle. Non, il ne cédera pas dans son duel face à Don Quichotte. Beaucoup le comparent au héros de Cervantes, baigné dans ses illusions et affrontant des moulins à vent, c'est tentant. Lui se voit en Sancho Panza, le réaliste, le raisonné, qui accompagne Don Quichotte. En 2009, il tente une nouvelle fois de tourner avec Robert Duvall et Ewan McGregor. Annulation quelques mois avant le début du tournage, faute de financement, ça recommence. L'année suivante, il rachète les droits du projet et il écrit de nouvelles versions. Là, fini le publicitaire transporté dans le temps, le personnage est remplacé par un cinéaste essayant désespérément d'adapter le roman de Cervantes. Alors, une mise en abîme pour conjurer le sort? Eh bien, sans grand succès. En 2014, nouveau casting et nouvelle tentative, John Hurt et Jack O'Connell pour les deux rôles principaux. Le financement est bouclé, le tournage annoncé. Mais quelques semaines avant, on diagnostique un cancer pour l'acteur de Don Quichotte. Puis arrive ce festival de Cannes 2016 et la fin du tournage, un an plus tard. Alors cette fois c'est bon, le film est dans la boîte. Et pourtant, on l'a appris au printemps dernier, Paolo Branco intente une action en justice contre Terry Gilliam. Selon lui, il est seul détenteur des droits de ce film enfin terminé et il menace de s'opposer à sa sortie sur les écrans. Non, décidément, il semblerait que l'ombre de Cervantes et de son héros plane toujours sur les rêves artistiques du pauvre Gilliam. Un mot, un seul résume ce genre de situation, malédiction.
Une scène à la fin que je vais vous raconter en 3 mots. Il a tout fait, Don Quichotte, pour qu'enfin il puisse mourir. Ça fait 400 et quelques années qu'il est sur la Terre, il en a marre. Il est le gardien de l'utopie. Sans l'utopie, c'est ce que racontait Terry Gilliam et son co-auteur, le monde ne marchera pas. Il faut conserver l'utopie, c'est un diamant. Maintenir l'utopie sur la planète, c'est du boulot. C'est ça que ça raconte. Donc c'était un film essentiel.
Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style.
Dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre,
à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style.
Existe-t-il un autre style?
Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute.
Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux.
Existe-t-il un autre style?
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le film Don Quichotte de Terry Gilliam, le film maudit, ou pas d'ailleurs, on va en débattre avec vous, François Forestier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur et critique de cinéma au Nouvel Obs, et vous avez publié récemment, dans l'Obs bien sûr, un entretien, un grand entretien, avec Terry Gilliam, sorti pendant le festival de Cannes, il y a deux semaines, l'interview datée du 26 avril. Je rappelle que son film, Don Quichotte, a été projeté au festival avant la cérémonie de clôture et avant la remise des prix, alors c'est une belle consécration pour un film qui a essuyé tant péripéties. Alors vous qui connaissez le réalisateur, vous écrivez dans le chapeau de votre article, je vous cite, « Enfin le voilà, le fameux film, l'Arlésienne du Cinoche, le projet fantôme d'un dingue, certifié, le machin impossible à tourner. » C'est incroyable que finalement on ait pu le projeter à Cannes. Est-ce qu'après la malédiction, on serait dans le miracle ?
Oui, c'est pas exactement le mot, mais enfin, en effet, le film a enfin vu le jour grâce à l'entêtement de Terry Gilliam qui était un acharné. Et je dois le dire, un dingue dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire que quand il a une idée dans la tête, je vous garantis qu'on lui enlève pas.
La preuve
d'ailleurs.
Alors, la question fondamentale maintenant, que vaut-il ce film ?
Eh bien, si on aime les films de Terry Gilliam, si vous avez aimé Jabberwocky, Bandit, Brazil, Les aventures du baron Munchausen, vous allez adorer L'homme qui tua Don Quichotte. Si vous n'êtes pas sensible à ce style et que ça vous irrite, faut pas aller voir le film, hein, tout simplement. C'est toujours aussi délirant, toujours aussi fou, toujours aussi inventif. Et surtout, à mes yeux, c'est quelqu'un qui repousse tout le temps les limites de ce qu'on peut faire au cinéma. C'est-à-dire qu'il tente des choses que personne ne tente. Aujourd'hui, on est dans un cinéma qui est souvent extrêmement conventionnel. Et Terry Gilliam est l'un des derniers, je crois, comme autrefois il y a eu Buñuel ou des gens comme ça, qui font des efforts et qui ont un univers tellement singulier qu'on est toujours un petit peu désarçonné et c'est ça qui fait tout le charme.
Comment a été accueilli le film à Cannes ?
Exactement comme tous les films de Terry Gilliam.
Voilà,
la moitié de la salle adore et la moitié de la salle déteste. Ce qui est très bien d'ailleurs.
Alors, Gilliam avait effectivement cette image que vous venez d'expliquer. Je vais vous citer une de ses phrases. L'aliénation du personnage principal dans Brazil, un film que vous citiez également, c'est moi contre le système, ou plutôt le système qui se dresse contre moi, qui préférerait franchement travailler dans des meilleures conditions sans qu'on vienne m'emmerder en permanence. Et alors ce Don Quichotte auquel je pense si souvent, c'est un peu aussi ce que je suis devenu finalement, à batailler contre des moulins à vent, encore et toujours. On retrouve le « encore et toujours », c'est ça, ces deux mots qui marquent l'abnégation du personnage. Quel homme est-il, vous qui l'avez rencontré ?
Écoutez, moi je le connais depuis les années 70, donc c'est une vieille complicité.
Depuis la période Monty Python ?
Pardon ?
Depuis la période Monty
Python ? Absolument. Je les avais rencontrés tous les cinq à l'époque. Et Terry Gilliam, qui est le seul Américain de la bande, et qui a été naturalisé anglais en 2006, parce qu'il déteste les États-Unis et ce que les États-Unis sont devenus. Inutile de vous dire que quand il parle de Trump,
ah oui, j'imagine.
Il a la bave aux lèvres. et donc, on se connaît depuis très longtemps, et je vous assure, j'ai interviewé beaucoup de gens dans ma carrière, et c'est probablement l'un des deux ou trois que je préfère interviewer. C'est parce qu'il est chaleureux, il est drôle, il est très cultivé, il est amusant, et c'est toujours, vous savez, on fait une interview en une heure, en général, une heure et demie. Avec lui, on a envie de rester 5 heures, 6 heures, des journées entières. C'est passionnant. C'est toujours passionnant. Et c'est, franchement, c'est un homme que j'adore.
Quel âge il a? 75 ans, là?
77.
C'est un grand gamin?
Un peu non, il y a du côté grand gamin, mais il y a aussi du capitaine d'entreprise. C'est, vous savez, je suis allé chez lui pour l'interviewer en avril. On découvre une bibliothèque absolument invraisemblable, une maison mais surchargée de bibelots, de boucliers africains, de statues, de peintures, parce que c'est un graphiste au départ. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a des centaines de livres. Et que tous ces livres sont des livres d'art. Il n'y a pas les œuvres complètes de Balzac. En revanche, il y a les œuvres complètes de Gustave Doré. Donc c'est quelqu'un qui se plonge constamment dans l'illustration, dans la peinture, dans le graphisme, et qui est absolument passionné par ça.
Quel regard vous portez sur cette histoire qu'on a racontée, et quel regard lui porte-t-il sur cette histoire qui est sa propre histoire?
Écoutez, ça le fait beaucoup rire. C'est un homme, oui, absolument. Il vous dit, par exemple, c'est un type tout à fait bizarre, mais adorable. Il vous dit, tiens, hier, je me suis cassé la jambe, et puis il se met à rire, il trouve ça génial. Il m'a raconté, il y a quelques semaines, qu'il avait eu une crise cardiaque. Et il me dit, je suis en voiture avec ma fille, et tout d'un coup, elle me dit, tiens, je vais doubler ce bus, et moi, je le voyais pas, le bus. Donc évidemment tout le monde s'inquiète un peu, ah oui. il se passe quelque chose. Lui ça le fait rire, il éclate de rire, il me dit mais c'est formidable, je ne voyais pas le bus. Et donc c'est tout le fait rire dans un sens absurde et comique. Voilà, le monde est un champ perpétuel de comédie.
Oui, n'empêche que ce film-là, on l'a entendu aussi quand même dans le récit, c'est... Il n'en est pas moins homme, hein, avec la fragilité d'un homme. Donc là, ça a quand même été dur. Alors on dit toujours le film maudit. C'est peut-être qu'une formule finalement. Est-ce que vous y adhérez? Il est bien maudit.
Évidemment que j'y adhère.
Bon, d'accord.
Écoutez, un gars qui va tourner en Espagne, qui a les fonds, qui a les acteurs, qui tout. Le premier jour, visiblement les assistants ont pas fait leur boulot. Il y a les avions qui survolent toutes les deux minutes.
Et
une base militaire avec des F-16 qui décollent tous les quarts d'heure.
Enfin, ça c'est comme de l'incompétence de ceux qu'on préparait, qu'on fait le repérage. Absolument.
Bon, ça c'est une chose.
Ouais.
Le deuxième jour, ils se tapent quand même. Ils sont dans une région où il a pas plu depuis 16 ans.
Et pleut.
Tout d'un coup, non seulement il pleut, mais vous avez vu les images. C'est un torrent de boue qui déferle. Il y a des caméras qui ont été emportées. La tente a été emportée. Tout le matériel a été noyé. Enfin, les bagnoles se déplaçaient. Non, c'était une vraie inondation. Donc déjà, c'est pas terrible. Et le troisième jour, l'acteur principal vous dit, oh, j'ai une petite douleur. Je suis obligé de rentrer à Paris. En plus, il parle pas anglais ou il parle pas très bien anglais, etc. Donc vous avez quand même, comme disait l'un des chefs opérateurs à Alcoutard de Godard, il disait, vous avez vraiment la loi de l'emmerdement maximum, là, qui est multipliée par 10.
Alors, on s'est dit que le film est maudit, mais peut-être que finalement, l'œuvre est également maudite, en tout cas, quand on veut en faire quelque chose, puisqu'un autre grand réalisateur, Orson Welles, s'y est confronté, lui aussi, sans succès. Orson Welles est une sorte de personnage typique, lui aussi, du réalisateur maudit, ou du moins hors système. On va écouter une archive de Orson Welles qui parle d'Hollywood.
Le problème avec Hollywood, ce n'est pas l'argent, ni les éclats entre personnalités. C'est que les films que j'aime faire ne sont pas ceux que les producteurs d'Hollywood veulent faire.
Et cette légende qui vous colle à la peau depuis des années, selon laquelle vous dépasseriez toujours vos budgets et vos temps de tournage.
Je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre.
Ce qu'on raconte vous contrarie?
Ça me contrarie beaucoup trop. Mes amis les plus chers ne cessent de me répéter de ne pas ressasser tout ça. Ça me dérange beaucoup. Ces critiques sur mon comportement, je ne parle pas des critiques sur mon travail, les mensonges qu'on répand sur moi m'importent beaucoup trop. J'ignore pourquoi ça me touche tant.
Alors, entre Terry Gilliam et Hollywood, c'est pas non plus une histoire d'amour. Donc, il se tourne vers l'Europe, où le système de production est différent. Mais est-ce que c'est vraiment mieux en Europe, plus facile, plus ouvert qu'à Hollywood?
Non, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que il faut trouver des différents producteurs. Personne n'est capable de mettre une somme pareille. Je crois que le budget, vous avez parlé de 60 millions de dollars, mais ça a été assez vite réduit à 30. Même 30 millions de dollars, ben, faut les trouver. Hein. C'est quand même pas... vous n'allez pas à la télé pour trouver ça. Donc, il faut rassembler plusieurs producteurs en même temps autour d'une table et c'est jamais très facile. Et évidemment, à l'époque, il y avait Hachette qui était rentré dans ce tour de table qui était très fort. Il y avait Canal+, il y avait, enfin, et puis le temps qu'on trouve le casting, le temps qu'on mette le scénario au point, les acteurs s'en allaient, revenaient, ils avaient d'autres contrats. Et évidemment, tout ça tombait à l'eau régulièrement. Mais je dois dire que Terry Gilliam est un abonné. Hein. C'est un type qui a toujours eu des problèmes avec ses scénarios. C'est un type qui est tellement perfectionniste. Il veut exactement... Il a une vision très particulière de ses décors, de ses scènes et du rythme qu'il veut imposer. Et il faut obtenir exactement ce qu'il veut. Donc, quand on l'obtient pas, il est sanguin, il fait les colères. Sur le baron de Munchausen, il y a une anecdote qui est très typique. Il tournait sur une plage assez longtemps avec des décors invraisemblables. Il y avait, je sais pas, 1000 figurants. Enfin, et on attend les costumes puisque ça se passe dans le passé. On attend les costumes et les costumes. On les attend, ils sont et finalement on apprend qu'ils sont en Afrique du Sud. Évidemment qu'il y a eu un petit problème. Donc c'est typique de Gilliam. Il a tout le temps ce genre d'emmerdement, mais il en rit beaucoup, mais ça le fait enrager aussi. Et quand les assureurs sont arrivés sur le tournage du Baron de Munchausen, il a fait une telle rage qu'il a avec son poing, il a donné un coup de poing sur le pare-brise d'une voiture qu'il a éclaté. Il faut le faire quand même. Hein.
Ah oui, ça peut faire très mal. Hein.
Ouais, non seulement ça doit faire mal, mais enfin, faut y aller quand même.
C'est le geste, ouais.
Faut y aller. Et il dit dans la vie, je n'arriverai jamais. Et après, il s'est aperçu que c'était sa propre voiture.
C'est drôle. François Foresti, on se retrouve dans quelques minutes et on parlera de Jean Rochefort.
To see you again, there's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, or just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. Don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside.
outside. Those aren't extras in a movie. They're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. And I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter, nous parlons du film Don Quichotte de Terry Gilliam. Avec Fisher King, il l'avait déjà fait presque Don Quichotte, François.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il a failli faire Don Quichotte, ça s'est écroulé, et est arrivé le scénario sur sa table, quelqu'un lui a filé le scénario de Fisher King, qui a été son plus gros succès, et qui ressemble étrangement quand même à Don Quichotte, il ne faut quand même pas oublier. Et c'est le film qui l'a remis en selle, l'histoire d'un chevalier, qui combat des moulins à vent, littéralement.
C'est vraiment Don Quichotte.
Oui, vraiment, sans le décor. Mais et du coup, il a retrouvé le financement pour faire les films suivants, dont L'Armée des Douze Singes, Las Vegas Parano. Comme il avait plusieurs scénarios à tourner, il n'a pas pu remettre Don Quichotte sur la table, mais il n'avait pas perdu l'espoir de le faire.
François Forestier, chose première, chose due, on va parler de Jean Rochefort. Donc dans le rôle de Don Quichotte, une sorte de magie hein, dans cette idée, à la fois pour l'acteur et le réalisateur. On va écouter une archive, c'est René Kletman, le producteur français cité dans le récit, qui parle de Jean Rochefort.
Jean est un des acteurs les plus talentueux que la France ait connu dans les années 60, 70, 80. Bon, Il a une réputation en France qui est extraordinaire, mais il a fait des grands succès de comédie. Il a fait des films très intéressants de créateurs, d'auteurs, etc., qui eux ont eu moins de succès. Donc il est surtout connu pour ses succès dans des comédies. Mais disons que Jean est un acteur qui, malgré sa dimension, était resté à l'intérieur des frontières françaises. Et donc pour lui, c'était la première fois, et quand on arrive à son âge, sans doute une des dernières, où il avait l'occasion de faire quelque chose d'exceptionnel qui couronnait justement sa carrière. Donc pour lui, c'était extrêmement important.
Parfois, on est obligé d'attendre la mort des gens pour mesurer l'exacte dimension d'un acteur. Et quand Rochefort est mort, vraiment, il y a un écho énorme en France.
Ce que disait Truman Capote, hein, il disait « la mort, c'est toujours bon pour la carrière
». Et c'est vrai. Mais ça fait plaisir de voir à quel point les Français, toute la sphère artistique française a réagi à la mort de Jean Rochefort, grand bonhomme.
C'était un très grand bonhomme et puis un personnage incroyable.
Bien sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé sur le tournage?
Alors, il y a plusieurs versions. La première version, c'est celle de René Kletman, et je pense que ça joue, en effet, où tout d'un coup, Jean Rochefort, qui a toujours été, disons, un second rôle hein, au cinéma, ou
un rôle d'appoint, ou un rôle d'appoint.
Et il a jamais, à l'époque, il n'avait jamais porté un film entier sur ses épaules, pas que je me souvienne, et tout d'un coup, il devait porter un rôle extrêmement lourd, dans une langue qu'il ne connaissait pas, et se retrouver sur le devant de la scène dans chaque plan. Donc ça, je pense que ça a joué. Et puis en plus, on dit que c'est le dos. Moi, j'ai discuté un petit peu avec Terry Gilliam, et on pense que ça, c'était peut-être autre chose. Et tout ça est possible, hein, mais je pense que l'angoisse, le stress ont certainement joué un rôle très important.
Voilà, il y a eu des vrais problèmes de santé et une somatisation aussi, probablement. Merci infiniment, François Forestier, pour ces éclairages sur cette histoire, une grande histoire finalement, que celle du film Don Quichotte. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Don Quichotte, le film maudit, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la chute d'Allende au Chili le 11 septembre 1973. À suivre sur France Inter après le flash, bien sûr, Antoine Decaune pour Pop Pop Pop.